17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Grand témoin aujourd'hui, le Proche-Orient avec son cortège d'émotions, d'engagement, de révolte et aussi d'espoir pour la paix. Alors aujourd'hui, invité Sadar Selam, enseignant, historien, islamologue bien connu. Merci Sadar d'être parmi nous. Merci. Et Louis Bachou, qui est ingénieur des travaux, architecte, qui est écrivain et qui est le président du think tank Humaniv, un think tank fondé sur la démocratie, la biodiversité et la Méditerranée. Merci messieurs d'être présents. On va essayer un petit peu d'élever le débat, de sortir de l'émotion et de regarder l'avenir. Mais tout d'abord, moi je voudrais que vous réagissiez sur l'actualité. Deux choses. Il y a une manifestation qui est annoncée pour dimanche, donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche et cette émission passe à 17h. Cette manifestation est appelée « Contre l'antisémitisme ». Est-ce que vous pensez que les choses n'auraient pas été plus simples si on avait appelé à une manifestation contre le racisme, dans lequel on aurait mis les exactions contre les musulmans, contre les juifs, contre les noirs, etc. etc. Est-ce que simplement manifester contre l'antisémitisme, c'est pas diviser la France, Sadar Selam?
Mais encore faut-il bien définir l'antisémitisme, mais dans l'ambiance passionnée d'aujourd'hui, critiquer Israël, c'est assimilable à l'antisémitisme. Alors que les tribunaux, à plusieurs reprises, ont dit on peut critiquer l'État d'Israël comme on peut critiquer les États, les dictatures, sans que ça relève de l'antisémitisme. Et on est encore sous l'effet de l'émotion, de la compassion. La compassion est indivisible, il faut compatir pour toutes les victimes. La plupart sont des victimes innocentes, sans armes. Et ça, c'est un problème. Ça devient un problème interne à la France. Ce n'est plus le Proche-Orient.
Est-ce que faire une manifestation fondée sur l'exclusivité de quelque chose, est-ce que ce n'est pas finalement ne pas rendre service à la communauté juive et ne pas rendre service à la communauté nationale? Le fait d'identifier et de sortir de la lutte antiraciste simplement l'antisémitisme.
Il y a le précédent de la LICA qui a accepté de devenir la LICRA. Au début, c'est la Ligue internationale contre l'antisémitisme, lancée par Bernard Lekache, qui était venu de Russie et qui avait beaucoup d'amis parmi les militants maghrébins. Mais après, on lui a fait la remarque, ou ses successeurs, il a accepté d'ajouter le R, contre le racisme aussi. Et cette manifestation est en retrait par rapport à ce progrès accepté par Bernard Lekache et ses successeurs. Mais moi j'ai jamais vu un déchaînement de passion aussi grand que cette fois-ci, alors qu'en France... on ne peut lancer que des messages de paix pour calmer le jeu, pour revenir à la raison. Et là, on a toute la tradition française qui est encore défendue vaille que vaille au Quai d'Orsay. C'est-à-dire, moi je vais vous faire une confidence. J'ai connu le père Riquet, qui était un jésuite. Il m'a dit, j'ai accompagné le grand rabbin Kaplan à l'Élysée, après la conférence de presse du général de Gaulle de 26 novembre 67. Et le père Riquet tenait une rubrique. Il avait une chronique au Figaro toutes les semaines. Il m'a dit, voilà ce que le général de Gaulle nous a dit. Messieurs, la France n'acceptera jamais la destruction de l'État d'Israël.
Alors que le général de Gaulle, dans son déclaration, parlait d'un peuple sûr et de
oui, ils ont été pour
et dominateur.
Formule. Oui, non, mais il leur a dit, la France a aussi des devoirs de protection des musulmans. Il m'a dit, moi j'ai jamais eu la possibilité de le publier dans le Figaro, je vous autorise à me citer. Le père Michel Riquet, qui était à la Fraternité d'Abraham, il me l'a dit après une conférence que j'ai faite à la Fraternité d'Abraham, qui était pour le dialogue entre les fils d'Abraham. Et c'est cette ligne qui est défendue. Maintenant, c'est devenu encore plus actuel, puisqu'on a des millions de citoyens de, français de confession musulmane qui sont réduits au silence dans les grands médias aujourd'hui. Et j'espère qu'on évoluera pour, vers un dialogue loyal, à commencer par un dialogue judéo-musulman. Parce que ces questions, il faut les traiter à tête reposée et non pas devant les caméras et les passions. Et le dialogue judéo-musulman ne peut être réduit aux mondanités entre le recteur de la mosquée de Paris et le CRIF. Le recteur de la mosquée de Paris ne représente que lui-même. Et le CRIF, il y a d'autres instances qui représentent le judaïsme qui méritent d'être impliquées dans le dialogue.
Donc, Louis Bachou, est-ce que appeler à une manifestation exclusivement contre l'antisémitisme, c'est pas se couper de grandes franges de la population française?
Je
veux parler des musulmans, des noirs, des tziganes, des roms, etc. Est-ce que le rôle de l'État, qui a un rôle régalien, c'est pas de faire l'unanimité et de faire cohésion?
Absolument. Alors, je serais beaucoup moins spécialisé que notre ami, qui est historien. J'en sais beaucoup moins que lui, et je ne veux pas le savoir, en plus. Aujourd'hui, je pense que nous sommes en face de problèmes qui sont des problèmes immenses. C'est le problème de la vie sur Terre, c'est le problème du réchauffement climatique, de la biodiversité qui disparaît, c'est le problème de 10 milliards d'hommes qui seront incessamment sur Terre, c'est-à-dire dans 20 ans, et nous sommes en train de nous battre comme au Moyen-Âge. Alors, nous sommes en pleine régression, hein, je le dis bien clairement, nous sommes dans une régression intellectuelle qui m'attriste terriblement. Rappelez-vous de l'Égypte. Je le disais tout à l'heure à Nasser en rentrant, l'Égypte n'avait pas de vérité absolue. Elle n'a jamais décidé d'une vérité absolue. Elle ne composa pas la Bible, d'ailleurs, ni de Bible, ni de livres sacrés. Elle n'a jamais eu de caractère dogmatique, de caractère définitif, et elle reformula toujours sa pensée à travers les multiples événements qui croisaient son existence. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais bien que nous réfléchissions un peu comme des Égyptiens d'autrefois, c'est-à-dire que nous devons chercher essentiellement l'unification. 10 milliards d'individus sur Terre ne crèveront de faim si nous ne travaillons pas tous ensemble. Alors on va parler clairement. Tous les États devraient aujourd'hui chercher l'unité. Et l'État français particulièrement, l'unification.
Alors, l'unité,
de la population française.
L'unité, c'est dans la consensus.
Dans le consensus.
De monter
et non pas monter les uns contre les autres. Donc aujourd'hui, nous aurions dû avoir un grand défilé pour l'unification de la population française, c'est-à-dire la paix en France et le travail en commun pour avoir un projet d'avenir commun. Ce qu'on n'a pas actuellement. C'est très clair.
On va parler bien sûr de ce conflit et de sa résolution et des perspectives de paix, mais ce qui est affolant, vous avez fait partie d'une réunion initiée par le cercle des médias et des journalistes indépendants qui ont appelé à un sursaut un petit peu des responsables politiques, mais on a l'impression qu'il y a un glissement quand même sémantique maintenant sur le plan médiatique et politique. Quand vous soutenez la cause palestinienne, vous êtes antisémite. Quand vous appelez un territoire palestinien à ce que les Palestiniens vivent en terre, vous êtes islamiste ou terroriste. Il y a quelque chose qui est quand même on a un glissement. En France, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui s'est déréglé.
Ah ben, c'est dû au fait que je vais vous raconter une expérience personnelle. J'ai beaucoup travaillé aux archives militaires de Vincennes et je me trouve un jour à côté d'une jeune, une brune, que j'ai pris pour une Marocaine. On est descendu prendre un café, elle m'a dit « Non, moi je suis israélienne, prof d'histoire. » Et alors, première question, que devient le mouvement Shalom Arshav? Je suis une militante. Je lui dis, vous êtes...
En français, c'est la paix maintenant.
La paix maintenant, oui. J'ai lu, à l'époque, je lisais régulièrement Le Monde, il dit, il pouvait rassembler jusqu'à 500 000 personnes. Israël est un petit pays. 500 000 personnes en Israël, c'est l'équivalent de 2 millions et demi en France, ou 3. Elle m'a dit, mais là, on a tout arrêté parce qu'il faut que Mahmoud Abbas mette fin au terrorisme islamiste. J'ai dit, mais avec quels moyens? Il a les prérogatives d'une municipalité de province en France. Et donc, pendant 25 ans, on a vécu sur ce discours de propagande qui dit, on examinera l'éventualité d'un État palestinien qui est promis à Oslo, quand même. Il faut relire les accords d'Oslo. Quand on mettra fin à l'islamisme radical et au terrorisme. Et là, la colère des gens, qui, même historiens, idéologues, vient du fait que le 7 octobre rappelle l'existence d'un problème palestinien antérieur aux islamistes, aux frères musulmans, parce qu'il faut se souvenir qu'en France, les immigrés, dans les années 20, étaient engagés contre la déclaration Balfour. Pas en elle-même, parce que National Jewish Home n'implique pas une structure étatique nécessairement. Ça aurait pu être un regroupement communautaire des Juifs, et vous avez les militants de l'AMNAF, de l'Étoile Nord-Africaine, qui vivaient en symbiose avec tous les séfarades. Mais ils disent, non, cette idée de terre sans peuple, c'est une mythologie. Il y a un livre.
En fait, avant la guerre, avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, on parlait de foyer juif. Oui. Et après la fin de la guerre, on parlait d'État juif.
C'est la conséquence.
Les choses ont basculé.
Conséquence de la Shoah.
Au milieu, c'est la Shoah.
C'est la Shoah.
Au milieu, c'est la Shoah.
Mais au début, vous avez les partisans. Moi, j'ai étudié le judaïsme, ce qu'on appelle la nation juive culturelle, qui était opposée à l'idée de rassemblement dans un seul État, surtout un petit État, qui a des problèmes démographiques aujourd'hui. Vous avez on a misé sur l'immigration originaire de Russie. Mais maintenant, il y a 1 million de Russes en Israël. Mais c'est un vivier pour le KGB. Poutine recrute là-dedans ses honorables correspondants. Et quel va être le prochain flux migratoire à destination d'Israël pour combler le déficit démographique? C'est ça le problème.
Et on voit d'ailleurs des juifs de la diaspora, comme Jacques Attali, comme Anne Sinclair, qui sont révoltés par les choses qui se passent aujourd'hui. On y revient dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Et oui, avec Sadar Selam, historien, enseignant, et Louis Bachou, écrivain et président du think tank Humaniv. Quel avenir pour le Proche-Orient, avant d'arriver un peu aux solutions. Pourquoi c'est aussi difficile d'appeler un cessez-le-feu? Pourquoi le mot de cessez-le-feu a été arraché à Emmanuel Macron lors de la conférence pour la paix de Paris, où il s'est retrouvé contre 27 chefs d'État qui n'étaient pas du tout venus simplement pour donner de l'argent à l'aide humanitaire. Ils étaient là pour demander un cessez-le-feu. Pourquoi ça a été si difficile de lui arracher ce mot-là? Et encore, c'est un cessez-le-feu en même temps, c'est-à-dire avec des pauses, etc. Pourquoi c'est si compliqué d'appeler un cessez-le-feu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un vrai cessez-le-feu, ça veut dire qu'il y a un embargo militaire sur les armes, c'est ça?
Non, d'abord, le cessez-le-feu est refusé par Netanyahou, qui va traîner cette blessure narcissique là, du 7 octobre jusqu'au bout.
C'est-à-dire qu'il a échappé aux États-Unis, malgré les 14 milliards de dollars, oui, Netanyahou a échappé aux États-Unis, il fait ce qu'il veut.
Il impose
son point de vue. Il est plus contrôlable, on ne contrôle plus Netanyahou.
Mais il a quand même une surprise, c'est la première fois que vous avez une manifestation de juifs de New York contre l'agressivité israélienne. Ça, c'est nouveau. Et ça donne à réfléchir. Mais moi, j'ai revu les vidéos d'octobre 73. Parce que vous savez que c'est l'Union soviétique qui a proposé 5 fois, en moins d'une semaine, un cessez-le-feu à Sadat, qu'il a refusé. Pourquoi? Parce que Kissinger a dit, il est en contact permanent avec Sadat, a dit, Israël, Golda Meir a été vraiment choquée, surprise par le démantèlement de la ligne Barlev, elle n'acceptera le cessez-le-feu que si elle compense ça par une petite victoire. D'où l'affaire du déversoir où Sharon a réussi à traverser de l'autre côté. Elle a dit on a vengé le 6 octobre et Netanyahou veut ça. Mais ce qu'il a dit hier montre qu'il n'est pas prêt de venger le 7 octobre 2023. Il veut montrer qu'il est quand même un expert militaire alors que tous les Israéliens doutent de ses compétences militaires. Et peut-être qu'on aura un cessez-le-feu quand il aura des chiffres. Il dit voilà, il y a une déportation là des gens qui vont vers le sud. Mais combien de types du Hamas, combien de d'otages? Si le Qatar et les autres pays qui sont actionnés surtout par la France, les États-Unis n'ont pas de crédibilité dans ces négociations. Et c'est pour ça que la France doit rester
dans le jeu
parce qu'elle est plus crédible aux yeux des États arabes pour les négociations secrètes en vue de la libération des otages. Si le Hamas, ils font quand même de la réelle politique. S'il libère le tiers ou la moitié des otages, ça donnera à Netanyahou un prétexte pour qu'il accepte un cessez-le-feu. Or, jusqu'à maintenant, même les États arabes ne parlaient que de droit international humanitaire. L'autre droit international, ils n'en parlent pas. Et c'est là où bon, les Israéliens intelligents sont en mesure de tirer la leçon avant nous. Il faut méditer l'exemple marocain. Le Maroc a normalisé, il y avait une coopération dans tous les... Mais les manifestations les plus suivies, les plus violentes, c'est à Tanger, Casablanca et Rabat. La moralité, c'est que même si les 22 États de la Ligue arabe normalisent avec Israël, ça va être un non-événement, le problème restera avec les peuples arabes. C'est avec les peuples arabes qu'il faut régler le problème. Et les peuples arabes ne demandent pas la mer à boire, ils demandent un État palestinien.
Louis Bachou, pourquoi c'est si compliqué de construire la paix dans ce genre de configuration? Pourquoi les hommes sont et on a l'impression qu'il y a une surenchère, je veux gagner, je veux être le meilleur, je veux prendre tant de kilomètres carrés. Pourquoi c'est si compliqué dans ce conflit d'appeler à la paix, au cessez-le-feu, et de construire deux États, un État palestinien et...
Parce que vous venez de le dire, d'ailleurs ce n'est pas moi, c'est notre ami qui vient de le dire, un peuple. Ils ont à nouveau ouvert la porte, non pas à la nation qui est un concept civilisationnel, mais au peuple qui est un concept identitaire. Et ça, c'est extrêmement grave. Si vous voulez, j'avoue que chaque fois qu'on se retourne et qu'on se raconte une histoire, il faudrait à un moment donné que nous soyons tous irresponsables de nos ancêtres. Actuellement, je viens de voir notre historien ici, n'a parlé que de notre passé. Aujourd'hui, parlons de notre présent.
Parce que le passé éclaire le présent.
Oui, mais si nous continuons comme ça, rappelons-nous tout de même que du temps du Christ, il n'y avait que 250 millions d'habitants sur Terre. Et que du temps de Mahomet, il n'y avait que 150 millions de... Et quand je suis né, il y avait 1,850 milliards d'individus sur Terre. Et aujourd'hui, nous sommes 8 milliards. Alors, tout est différent. Tout est différent. L'homme n'a pas changé, mais il a des outils tellement considérables qu'il devrait commencer à réfléchir et à se poser les questions et les bonnes questions. Aujourd'hui, je dis bien, ce qui a été le 7 octobre est inimaginable sur le plan humain. Mais aujourd'hui, ce sont les Gazaouis qui payent. Et donc, il faudrait arrêter immédiatement la guerre.
Non, pas plus de 10 000 morts, donc plus de 4 000
enfants. Non, mais les Gazaouis sont en train de payer un passif, un passé et une émotion. Une émotion normale, humaine, en face de la barbarie. Mais on arrête maintenant et on pense que ce sont les Gazaouis, les Palestiniens, qui sont les jouets à la fois du Hamas et d'Israël. Voilà.
Sadar Salam.
Parce que le Hamas, je conclue, car le Hamas n'a pu vivre. qu'avec l'argent du Qatar, béni par Netanyahou.
Netanyahou qui est responsable,
responsable
de la radicalisation du Hamas.
La radicalisation du Hamas s'est faite avec la bénédiction de Netanyahou, et aujourd'hui, qui paye à la fois les Israéliens et plus particulièrement aujourd'hui les Gazaouis.
Sadr Salam, comment expliquer que d'un conflit territorial, on est dans une dernière guerre de colonisation, d'une occupation, d'un apartheid, où un Mexicain, un Sénégalais, un Chinois pourraient soutenir la lutte du peuple palestinien pour sa terre, comment en est-on arrivé pratiquement à une guerre de religion, avec des intégristes juifs qui ont pris la possession de l'appareil d'État israélien, et avec aussi, il faut le dire, un mouvement islamiste extrêmement violent qui revendique aussi la liberté pour le peuple palestinien. Comment on en est arrivé là ?
Mais cette idée, cher Netanyahou, d'affirmer le caractère juif de l'État d'Israël. Et c'est les gens qui font de la sociologie. Vous avez un juif européen, ashkenaz ou français, ou qui émigre, il ne va pas devenir un bigot uniquement parce qu'il a fait l'alia. Il restera agnostique, sécularisé, et la société israélienne est en train de se séculariser à cause de son rattachement à l'Europe. Et elle a en face d'elle des gens qui n'ont pas d'autres ressources que la mobilisation au nom de la religion, au nom de la solidarité inter-islamique. Mais prenons un Gazaoui, il n'est pas né terroriste. Il le devient quand il découvre une situation coloniale. Situation coloniale, c'est le titre d'un article de 1951 de Ballandier, Georges Ballandier, qui est mort... Et qui dit ça ne relève ni de la lutte des classes, ni des revendications syndicales. Situation coloniale, ça doit être faire l'objet d'études spécifiques. Et on aurait pu oublier le caractère colonial d'Israël s'il n'y avait pas eu ces colonies soutenues par le Tzahal, après avoir chassé les propriétaires. On a une déclaration de Ben-Gourion en 1948, je pense qu'il ne savait pas qui était le maréchal Bugeaud, mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une phrase de Bugeaud au début de la conquête de l'Algérie. Il dit il faut installer nos soldats laboureurs là où il y a de bonnes terres sans se poser la question de leur propriété, propriétaire légal. Maintenant, si vous voulez, l'augmentation, beaucoup d'Arabes partisans des deux États misaient sur le poids des séfarades dans Israël. Or, avec l'immigration russe, vous avez un vrai problème, une crise de la société israélienne.
Les séfarades ont perdu quasiment toute influence en Israël.
Ah, absolument, et c'est eux, ils ont l'habitude de la cohabitation pendant des siècles. Et ils sont reconnaissants aux musulmans de les avoir accueillis après la chute de Grenade, quand on les a chassés avec les Arabes. Vous savez, tous les amis. Moi, j'ai reçu un ami juif, un ami commun, qui est très embarrassé pour m'envoyer un signal sur sa. Il m'a dit, moi, je passe plus sur les chaînes. Il m'a envoyé l'extrait d'une déclaration de Raymond Aron en 67. Raymond Aron a dit, je suis juif, agnostique. Je suis contre la destruction de l'État d'Israël, mais je suis français d'abord. Et je vois les événements du Proche-Orient en tant que français. Et cet ami, qui est un grand historien, que nous connaissons tous, il m'a dit, moi je suis sur cette ligne. Et avec l'air de dire que je ne peux pas aller répéter ça sur les chaînes d'information continue. Mais il faut pas désespérer, parce que même les journalistes là, qui subissent la pression, ils vont revenir un peu à la raison. On a l'habitude, dans les sciences politiques, d'invoquer tout le temps la raison d'État. On fait des concessions, apparemment inacceptables a priori, au nom de la raison d'État. Et pour amener les Palestiniens à faire les concessions demandées, ou en partie, il faut leur donner un État. Plein et entier, c'est pas les prérogatives municipales de Ramallah.
On en parle dans un instant.
Les grands témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Oui, bon, on termine cette émission sur les perspectives et l'avenir. Sadr Arsalan, on a le sentiment que la politique de l'État israélien conjugue à la fois ce que, par exemple, la France a pu commettre en Algérie à travers ses massacres et la colonisation, et aussi ce que les États-Unis, les Américains ont fait aux États-Unis en exterminant les Indiens. On a l'impression que les deux choses se conjuguent et que l'histoire se répète.
Il y a un parallèle à faire avec la guerre d'Algérie sur tous les points. Par exemple, on nous dit, il y a la déportation qui est considérée comme un crime contre l'humanité dans le droit international. On parle de génocide arménien de 1915 parce qu'il y avait l'ordre de déportation de toutes les populations, même celles qui n'étaient pas mêlées à la guerre. Et le Parlement français a voté pour le génocide arménien. Et deuxièmement, responsabilité collective et vengeance collective. Netanyahou le dit presque comme le dit la note confidentielle de l'état-major en 55 en Algérie. Troisièmement, ils nous disent, on veut bien négocier, mais avec qui? On a dit ça pendant 6 ans et demi, pendant la guerre d'Algérie. Et c'est Jacques Merck, qui venait d'arriver au Collège de France, qui a publié un article que j'ai mis dans une collection, là, publié récemment. Et il dit, pour mettre fin à une guerre, il faut négocier. Négocier avec qui? Avec ceux qui combattent, bien sûr. Avec l'adversaire. Sinon, c'est pas une négociation. C'est des Salam Alek, des mondanités. Et donc, il faut s'asseoir. Arafat a eu le courage, là, conseillé par Roland Dumas, qui vit toujours, je crois, qui a joué un grand rôle autour de Mitterrand. Arafat est venu, il a dit la charte de.
Et Caduc.
Et Caduc, il a dit. Caduc, oui. Et donc, voilà, Arafat a commencé par être. Il était considéré comme terroriste. Et donc, parce que. Il avait des contacts secrets depuis très longtemps. En vue d'une. Il a donné tous les gages, mais à chaque fois, les interlocuteurs. Rabin a fini par être assassiné. Et Rabin était militaire. Dayan, moi je me souviens, Dayan a été l'artisan de toutes les victoires de 56-67, et il disait je préfère Sharm el-Sheikh à la paix. Mais à la fin de sa vie, il a dit il vaut mieux renoncer à Sharm el-Sheikh si ça nous rapporte la paix. Netanyahou n'arrive pas à la cheville de ces grands militaires. Le troisième, c'est Shimon Peres aussi. Il a fini avec Arafat. Et donc, ce Netanyahou est une exception dans la vie israélienne. Moi, j'ai vu, là, après le 7 octobre, il y avait des Israéliennes qui étaient à Paris, là, dans cette réalisatrice, qui était invitée tout le temps, parce qu'elle téléphonait à son fils réserviste. Elle a dit, non, nous sommes pour la paix, nous sommes contre Netanyahou. Et le dernier sondage réalisé en Israël donne 50% d'Israéliens qui demandent le départ de Netanyahou. Donc cette branche vraiment extrémiste, on nous dit les extrémistes du Hamas, mais est-ce qu'ils sont plus extrémistes que Netanyahou et le clan qui est derrière lui? Donc à mon avis, la guerre du Golfe là, de 91 a donné la conférence de Madrid, suivi par la conférence d'Oslo, qui a été un progrès, mais on s'est arrêté au milieu du quai. Je pense que, si on obtient un cessez-le-feu, il y aura l'équivalent pour tirer la leçon de toutes ces tueries et de tous les hommes d'État qui, s'ils veulent être vraiment à la hauteur de leurs responsabilités, doivent prendre les dispositions pour créer des passerelles entre les deux belligérants. Les Américains qui ont combattu les talibans à la fin, quand ils ont voulu négocier, ils ont dit le State Department, nous avons trouvé des talibans modérés. Je pense qu'on trouvera des Hamas modérés.
Louis Bachou, quand on voit la colonisation israélienne, notamment la Cisjordanie et Jérusalem-Est, le territoire palestinien se réduit à un confetti, à une peau de chagrin. Vous pensez qu'on arrivera à une solution à deux États avec, on a l'impression quand même qu'il y a de moins en moins de Palestiniens qui sont déportés, qui sont expulsés. La terre est de plus en plus rare. On a vraiment le sentiment qu'on veut les chasser de Palestine pour les emmener dans les camps de réfugiés. Et beaucoup appellent aussi à une solution à deux États. Quel est votre sentiment ?
Indiscutablement. Alors, je ne ferai pas de rapprochement avec les différentes guerres. Je considère, en effet, que ces rapprochements servent de vengeance, souvent. Je dirais tout simplement qu'il faut actuellement, aujourd'hui, arrêter le conflit. Et vers quoi ? Vers deux États. Il n'y a pas d'autre solution.
Alors, on le mettrait où, l'État palestinien ? Donc, on demanderait le démantèlement des colonies ?
On demanderait... Indiscutablement, on ne peut pas laisser les Palestiniens dans 400 km². Je vous le vois, rappelle, 400 km², 2 300 000 personnes. C'est extraordinairement... C'est la prison. Il est nécessaire de réviser les frontières. Rappelons-nous aussi qu'en 1947... Quand l'État d'Israël est formé, il est la moitié moins grand qu'aujourd'hui, à peu près. Je regardais encore la carte hier soir. Donc, indiscutablement, il faut que ce soit au travers de l'ONU ou de toute gouvernance, il faut absolument que nous révisions les frontières pour que les hommes puissent être... dans un échange et non pas dans une guerre.
Sadar Selam, ça sera possible de faire une solution à deux États avec l'État palestinien là où il est, puisque Israël est une théocratie et non pas une démocratie, puisque...
Non, c'est une démocratie quand il s'agit de relations.
Non, c'est une démocratie.
Entre juifs seulement.
Oui, mais Israël n'a pas de constitution. Elle tire son fonctionnement des lois fondamentales. Et dernier événement, elle a aboli la Cour suprême avec la réforme judiciaire où maintenant l'exécutif gère la justice, alors que la Cour suprême était encore...
Mais nous verrons le futur.
Était encore le dernier reliquat d'arbitrage lorsqu'il y avait une injustice qui était commise. C'est possible de construire encore un État palestinien avec dans ce confetti, dans ces colonisations ?
À partir des décombres, on peut. Mais oui. Il faut voir les conséquences d'un État. Les Palestiniens, c'est l'élite la plus brillante dans tout le monde arabe.
La plus démocratique.
Et celle qui peut être... développer la démocratie
on
dans les...
On oublie que le Fatah est un organisme démocratique. On retrouve des juifs, des musulmans, des athées, des agnostiques. On retrouve même des gens qui sont non palestiniens. Et que ça fait peur aux États arabes.
Ah bien sûr, les États arabes ont instrumentalisé l'affaire palestinienne. Mais les États arabes, il faut voir, l'Arabie saoudite était en train de négocier la normalisation. Et le prince héritier a pu bien communiquer plus de normalisation. Parce que maintenant, il louche vers l'Iran. L'Iran, c'est la puissance. Je reviens sur l'hypothèse normalisation avec les 22 États de la Ligue arabe. Israël, qui est un État démocratique en interne, serait antidémocratique à l'extérieur parce qu'il soutiendrait des pouvoirs qui n'ont pas le soutien de leur peuple. Et ça, c'est soutenir des dictatures, c'est pas très digne d'une démocratie. Mais moi, je veux parler, parce qu'à chaque fois, ça devient un problème interne en France. Et moi, j'ai rencontré un conseiller musulman de Najlen, là, en 49, gouvernement général. Il m'a dit, Najlen, on lui a dit, il va y avoir des affrontements dans les rues de Constantine, d'Alger, entre juifs et musulmans, à cause d'Israël. Il m'a dit, j'ai convoqué tous les dignitaires de toutes les religions, il faut... Il m'a dit, ils lui ont tous dit, écoutez, nous sommes des gens civilisés, nous avons des désaccords, mais on les traite par le dialogue. Les juifs sont des gens du livre, dans le Coran, donc ça crée déjà une base de dialogue, qui ont des droits. Et à chaque fois qu'il y a une guerre, on dit, on va importer le conflit, il n'a jamais été... On peut débattre sur les désaccords de manière civilisée, par des arguments... juridique, historique.
Pour terminer, Sadar Selam, beaucoup disent que Netanyahou veut nettoyer la bande de Gaza, coloniser toute la Cisjordanie, construire le grand Israël, Eretz Israël, et déporter les Palestiniens soit en Jordanie, soit en Égypte, enfin des camps de réfugiés, et que cette histoire soit terminée, et que les quelques Palestiniens qui restent deviennent des Arabes israéliens. Il y a une idée un peu comme ça, c'est que tout ça se termine de cette façon.
Alors que deviendraient les accords d'Oslo, dont on attend encore avec une grande patience l'application. Qui va prendre au sérieux un État qui se dit démocratique, qui sollicite l'État, le soutien de l'Occident et qui ne respecte pas sa signature. Déjà, il y a des tonnes de résolutions du Conseil de sécurité depuis 1947 qui sont totalement méprisées. Non, ça serait le meilleur moyen de multiplier par 100 le terrorisme. Et il y aurait des gens très pacifistes qui deviendraient terroristes à la manière de Bomboleïd que Germaine Tillon a connu à l'âge de 14 ans. Elle a dit qu'il était le plus gentil, mais elle était étonnée d'apprendre que c'était lui le chef des maquis des Aurès. Donc on ne naît pas terroriste, on le devient, et ce sont les circonstances et les refus, et l'obstination et cette agressivité israélienne qui est le premier problème à régler. Les Arabes, les Palestiniens doivent mettre de l'ordre chez eux, mais l'agressivité israélienne, c'est le premier des grands problèmes.
Merci d'être venu, Louis Bachou, nous voir. Merci à Sadar Selam. On était dans le Proche-Orient, on était dans les espoirs et on n'espère pas dans l'utopie. Donc bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir. Merci à vous deux et à très bientôt.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.